Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le 12. On commence ça net frais de sec. Le 12.
Ça part ici.
Alors, bonjour. Alors, bienvenue à notre émission du 12 présentée par Fatou Ramatoula et Kanté. Pour cette émission, nous allons avoir une période de chronique que je vais vous faire qui va durer environ 3 minutes. Ensuite, on va parler de musique avec nos différents invités. Je vais d'abord commencer par la chronique, par qu'est-ce qui se passe sur le campus. En premier lieu, nous allons parler de la collation des grades qui a eu lieu le samedi 20 septembre, qui a réuni une cérémonie avec des milliers de personnes. Des étudiants ont gradué, que ce soit au bac, à la maîtrise et au doctorat. Une cérémonie institutionnelle s'est tenue au stade extérieur, ensuite les cérémonies facultaires pour la remise de diplômes des étudiants. Ensuite, nous avons la soirée de lancement des médias étudiants de l'UDS, à savoir le CEFAC et le collectif, qui invite toute la communauté étudiante le 1er octobre pour un 5 à 7 pour découvrir la nouvelle image du journal et la programmation de la radio pour cette session d'automne 2025. Ensuite, nous avons un rallye pour la bonne cause qui se tiendra le 26 octobre prochain au campus principal, organisé par la cohorte étudiante pour devenir infirmier et infirmière praticien. Et pour finir, pour conclure, nous avons aussi l'Ombudsman, le Bureau au respect des droits et du respect des droits des personnes étudiantes qui est sur le campus et qui propose un accompagnement hors pair. Et d'ici là, nous allons passer à une courte pause musicale et on revient bientôt en onde avec notre prochain invité.
Je vis de famine et de solitude, sans famille mais j'ai l'habitude. Un peu d'air pur, le temps que ça dure, bien pour caresser la surface de nos engelures. Et creuse où ça fait mal, mon corps est constamment malade. La mort est un peu trop banale. Je peux passer encore un autre mois de mai à Montréal. C'est pas la peine, oublie la tienne. À quoi ça sert de souffrir maintenant? La porte est tiède, le cœur me lève. J'ai jamais voulu remonter le temps. Mais pas hier. Le temps que j'oublie le goût du charbon et de ses cuillères. De couper mes racines, brouiller mes repères. Maintenant je gèle sur place à chaque hiver. La perte de mémoire est mon seul remède. Le plancher craque, le jour se lève. La corde est fine, le café raide. Par l'équilibre, le temps s'arrête. C'est pas la peine, oublie la tienne. À quoi ça sert de souffrir maintenant?
Fac. Ça part ici.
T'as plongé les deux mains dans la matière sensible. À ne savoir que faire du trop plein. Fais sauter les fusils. ta conscience libre. Dis-moi ce qui t'effraie, je te dirai qui tu es. Dis-moi ce qui t'effraie, je te dirai qui tu es.
Université de Sherbrooke.
CFAC.
88.3.
Je suis arrivée seule dans ce party. Je te vois de loin, un ami d'un de mes amis. Double dare you, if you're gonna stare. Sois un peu téméraire, ça peut rester éphémère. Y'a pas de stratégie.
Go with the flow.
And you can tell.
Bonjour, il est 12h20 sur les ondes de la CFAC. Malheureusement, notre invité, Émile Bilodeau, n'est pas joignable pour l'instant. Donc, nous allons essayer de le recontacter ou sinon prendre une autre journée de la semaine pour faire son interview. Pendant ce temps, nous allons passer à la pause musicale. Merci.
C'est pas garanti que tu vas aimer la prochaine chanson. Mais non.
Mais les goûts, ça se développe.
Ouvre tes oreilles, ouvre ton esprit. V'là une nouveauté, c'est FAC.
Je me quand je parcours ma vie.
suis CFAC 88.3 sur Facebook et Instagram.
Sur les ondes de la CFAC et présentement je suis accompagnée de Alexandre Leclerc qui va nous parler de cinéma aujourd'hui.
Eh oui, fidèle à mon habitude, c'est mon sujet de prédilection et puis c'est que la semaine dernière en fait on avait de la belle visite en studio alors que Philippe Falardeau et Alain Farah sont venus nous parler de leur nouveau long métrage Mille secrets, mille dangers. Donc Philippe Falardeau qui réalise et Alain Farah qui est l'auteur en fait du roman d'origine. Une discussion très intéressante et courtée là parce que le format évidemment de l'émission est un peu plus court là. C'est une entrevue complète de 30 minutes que j'ai eu la chance de réaliser avec eux. Film qui a pris l'affiche vendredi dernier. Très belle réception critique. Vraiment une belle histoire sur... ça va être drôle à dire. Une belle histoire sur l'anxiété. c'est un récit un peu ludique. Une espèce d'aventure à travers Montréal qui est centrée sur un mariage. Un mariage entre un homme de la communauté arabe et une fille de Trois-Rivières. C'est ça. Tout le rapport d'anxiété, les dynamiques familiales, et tout ça, puis des passés, en fait, des secrets du passé qui vont ressurgir au mauvais moment, c'est-à-dire pendant le mariage. Donc, mais c'est ça, c'est très comique comme film, même si on comprend que, c'est ça, ça parle peut-être du mal du siècle qui est l'anxiété. On va aller écouter justement une partie de l'entrevue que j'ai réalisée avec Philippe Falardeau et Alain Farah, puis je vous invite à aller voir le film qui est présenté notamment à la Maison du cinéma ainsi qu'au Cinéma Galaxy de Sherbrooke depuis vendredi dernier.
j'ai la chance, en fait, l'honneur de m'entretenir avec Philippe Falardeau et Alain Farah, donc de Mille Secrets, Mille Dangers. Bonjour. Salut. Merci de passer en studio aujourd'hui pour l'avant-première, d'ailleurs, à Sherbrooke. Vous vous promenez un peu partout hein, dans les derniers jours, dernières semaines, Toronto, Québec, Montréal et tout ça. Vous devez être content, là, j'imagine, de finalement présenter le film au public, là, alors que le film va prendre l'affiche, en fait, en salle un peu partout au Québec. Là. Vous devez être content de...
Ben, c'est finalement la période de réconciliation pour moi, pas spécifiquement sur ce film-là, mais ça doit être un peu la même chose aussi quand tu finis un livre, c'est que tu veux plus rien savoir. Ouais. Tu le connais par cœur, tu vois juste les défauts. Et là, c'est la période où tu redécouvres certaines choses, où les gens t'en parlent, mais pas nécessairement là où tu les attendais. Et le plaisir aussi... Quand c'est une comédie, d'entendre des gens rire, ça fait du bien. Quand tu fais un drame pur, puis tu le sais qu'il n'y aura pas de réaction vocale, c'est plus difficile à jauger. Mais quand c'est une comédie, puis que les gens rient, tu te dis « OK, on n'est pas pire ».
J'y ai jamais posé la question directement à Philippe au cours de ces dernières années, mais moi, je trouve la création difficile. Et c'est vraiment sur le mode, tu sais, de l'entrée de légumes puis du plat de viande quand t'es un gamin. Là, pour moi, quand on fait sortir les œuvres, c'est vraiment le dessert. C'est vraiment aller à la rencontre, c'est vraiment triper avec les gens. Il y a quelque chose enfin qui existe au dehors de notre propre, si on veut, là, obsession et tout. Donc, moi, ça me donne énormément d'énergie. Même si c'est des calendriers un peu fous.
Ouais. Quels défis se sont présentés lorsqu'on est tombé dans la réalisation, la scénarisation? Parce que les deux, vous avez collaboré donc au scénario. Il y a des choix qui ont dû être faits peut-être pour recentrer le récit. Est-ce que, justement, quel défi est-ce que ça a représenté que cette adaptation-là?
C'est ma quatrième adaptation, donc le premier jet doit se faire plus instinctivement, c'est-à-dire de dire « OK, je parcours le livre, on parcourt le livre, on pense que ça peut faire une séquence, on pense que ça peut faire une séquence. » Et là, on jette une espèce de premier canevas qui est trop, qui est éléphantesque. Ouais. Mais qui nous permet après ça de dire, OK, voici un début, un milieu, une fin, puis qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans. Après ça, c'est d'identifier ce qui est la force de la littérature et ce qui ne sera jamais égalé. Et là, on rentre dans des considérations comme, est-ce qu'on veut une voix off? Est-ce qu'on veut aller dans le futur autant que dans le passé? Est-ce qu'on peut être en décalage avec le personnage en même temps que savoir ce qu'il est en train de penser? La littérature fait ça les deux doigts dans le nez. Le cinéma, c'est compliqué. Et à un moment donné, si tu lâches prise sur certaines idées qui sont plus littéraires, là, tu dis, OK, parfait. Maintenant, ça nous demande de commencer à rentrer dans le champ de l'invention. Alors, c'est vraiment un long processus. Mais après, on était très ambitieux au début. Quand je regarde la version qui était appelée, d'ailleurs, 0.0, on a un canevas où je dirais le désir est là et c'est retrouvé dans la version finale, mais c'était
laborieux.
C'est autre chose. Et il y avait cette espèce de... Je dis, je voulais pas de narrateur, mais finalement, j'en ai essayé.
Mais c'était normal parce qu'il fallait gérer un peu tout ce qui se passait. Mais moi, où je me suis senti vraiment, vraiment en confiance, c'est qu'il y a toutes sortes de manières, hein, puis il y a toutes sortes de monde qui ont leur avis sur la scénarisation, tout ça. Mais on oublie que, je veux dire, le cinéma est un art super jeune, mais que, je veux dire, il y a 3500 ans autour d'un feu en Grèce antique, on se racontait des histoires. Puis Philippe, dans le fond, en acceptant de m'accueillir dans le scénario, m'a pas accueilli en technicien. T'sais, il m'a accueilli en compteur, en disant ça, là, c'est la matrice avec laquelle on va raconter une histoire. C'est une étape de plusieurs étapes d'écriture. Fait que racontons des histoires. Puis moi, ça m'a décomplexé par rapport à ça. Je dis toujours à la blague, c'est lui qui m'a fait downloader Final Draft parce que j'avais peur de Final Draft parce qu'on m'avait toujours dit « Ah, c'est pas pour toi ». Et puis ça avait mené à des décisions un peu fâcheuses. Par exemple, j'avais vendu des adaptations, des droits d'adaptation de livres précédents que j'ai écrits, mais je disais toujours « Ah, c'est pas pour moi, alors faites-le pour moi ». Mais ça aboutissait jamais. Parce que, je veux dire, il y a quelque chose de l'ordre de la mécanique interne, surtout du travail que je fais, moi, qui est, qui est assez intime puis assez bizarre. Hein. Mon traducteur Laser dit tout le temps « contrived madness », tu sais, ouais. Une sorte de folie contenue comme ça. Il faut être capable de rentrer là-dedans. Donc ça aussi, je trouve qu'en avançant de version en version jusqu'à 14.2 non, avant d'arriver à la blanche.
14.2.2.
Oui, 14.2.2 avant la blanche. Il y a quelque chose de dire, OK, quelle histoire on veut raconter? Mm-hmm. Et quand on a tourné et quand Philippe et Elric m'ont envoyé des assemblages après quelques semaines de travail en intimité dans la salle de montage, c'était encore cette question-là qui nous guidait. Qu'est-ce qu'on raconte exactement? Qu'est-ce qu'on raconte qui est plus fort que ce qu'on veut raconter? Mm-hmm. Donc,
qu'est-ce que le film, à un moment donné, tu prends des plis au tournage que tu n'avais pas nécessairement prévu? Et qu'est-ce que le film aussi veut raconter? Toi, tu veux pas que ton film dise l'inverse de ce que tu voulais dire a priori, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, il te pointe dans une direction, dans ses forces et ses faiblesses.
Le film, justement, dans sa construction, est quand même assez complexe. Beaucoup de voyages dans le temps, entre guillemets, là, une temporalité un peu fluide. Est-ce qu'à un certain moment... évidemment, ça reprend un peu la structure du roman, mais est-ce que l'idée est venue de faire quelque chose d'un peu plus linéaire comme ce qu'on est habitué de voir au cinéma, ou si justement cette déconstruction-là s'est imposée vraiment, puis vous saviez que vous n'alliez pas y toucher?
Non, je savais qu'elle évoluerait jusqu'à la fin. On a essayé toutes sortes de déconstructions. On a même essayé une plateforme où il y avait le futur qu'on a fini par abandonner. On a gardé deux lignes de temps. La mécanique n'est pas si complexe que ça. On revit le mariage une deuxième fois. Mm-hmm. On a l'impression de se promener et on se promène de manière beaucoup plus onirique dans le passé, dans le présent. Mais si on enlève ces flashs-là, ça reste une boucle assez simple quand on repense au film. Mais après ça, je savais que c'était une question de ce que le montage allait nous... Qu'est-ce qu'on allait comprendre et qu'est-ce qu'on allait accepter et qu'est-ce qui était intéressant. On savait assez tôt que raconter cette histoire-là dans l'ordre n'a pas tellement de sens parce que ça aurait donné les clés dans les 30 premières minutes au spectateur de mm-hmm. savoir pourquoi il est anxieux. Mais qu'est-ce que je fais après ça, moi, la prochaine heure dans le film? Et le livre est aussi construit de cette manière-là. Et ayant construit un film exactement de la même manière en Kongorama il y a mm-hmm. plusieurs années, j'étais convaincu qu'il fallait, d'une manière ou d'une autre, à la fin du processus, de conserver cette déconstruction du temps. C'est juste qu'elle ne serait pas exactement de la même façon que dans mm-hmm. le
film. Ouais, ouais.
Ben, il y a cette belle phrase de Godard, hein, un film, ça prend un début, un milieu, puis une fin, mais pas nécessairement dans cet ordre-là. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut raconter qu'à l'envers. C'est-à-dire qu'un des défis sur lequel on travaillait, puis ça devait marcher à quelque part parce que nous, on était très anxieux pendant qu'on le construisait, c'est cette fameuse première heure qui est une longue exposition quand même, mais qui a ses propres bénéfices intérieurs, puis des courbes, mais qui quand même implique de placer beaucoup de choses.
Je nuancerais.
Ouais, c'est peut-être pas exposition,
c'est pas une exposition. C'est ça. Une exposition, c'est juste de placer du backstory. Là, on place, c'est-à-dire qu'on place le spectateur dans une position où il n'a pas toute l'information. Ouais. Mm-hmm. Oui, il y a de l'exposition, mais en fait, ce qui est dérangeant, c'est que, ben voyons, j'ai manqué quelque chose, moi, y a-t-il quelque chose que j'ai pas eu comme information?
Oui, t'as raison.
Exactement, et tu vas l'avoir à un moment donné. Ce que t'as eu, c'est une réaction à mm-hmm. un événement auquel t'as pas assisté. Et donc, c'est un jeu, c'est une structure ludique qui demande un certain état d'hypervigilance. Et c'est quoi l'hypervigilance? C'est la sous-maladie de l'anxiété. Mm-hmm. C'est l'état de quelqu'un qui est anxieux, l'hypervigilance, et qui rend tout insupportable et qui te rend toi-même insupportable à ton entourage.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, puis c'est vrai que dans le fond, c'est comme une exposition interrompue jusqu'à un certain point, tu sais, qui est très contre-intuitive, mais qui nous donne accès souvent à des conséquences avant d'en avoir les causes.
C'est ça.
Et nous, on...
C'est aussi simple que ce
que je veux
dire. On a accès aux conséquences, mais pas encore aux causes.
Oui, mm-hmm. et puis dans un de nos nombreux workshops et tout ça, qui se passait essentiellement essentiellement par texto, je revenais toujours sur cette phrase-là de qu'est-ce que je t'avais dit, tu sais, un philosophe disait il faut faire exploser le passé dans le présent. Puis tu me disais, mais et qu'est-ce qui se passe si on fait exploser le présent dans le passé? Et puis c'est pour ça que, tu sais, quasiment jour 30 sur 35, à un moment donné, on sait qu'on a des scènes de jeunesse et tout ça. Puis je pense que tu dis à un moment donné, hey, tu sais quoi, je fais revenir Neil. Neil était rappé, donc l'acteur qui joue le rôle d'Alain était rappé. Puis on disait, hey, tu sais quoi, on le ramène en tuxedo dans l'enfance. Et moi, c'est vraiment des moments où je ressens encore, après beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoute, une sorte d'émotion très forte sur comment on est hanté. Comment on est hanté par ces scènes-là qui loupent infiniment en nous, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées.
Il y avait un fantasme depuis des années. J'avais été très admiratif de la structure d'incendie dans le film, c'est-à-dire que le passé n'était pas explicatif du présent, mais il évoluait parallèlement au présent. Et ça, j'ai dit, waouh, OK, ça, c'est rare que tu vois ça au cinéma.
Ouais. En bon français, on caste Alain Farah. Est-ce qu'on se colle au livre?
La réponse est très simple.
Ouais.
On ne caste pas Alain Farah. Parce que je l'ai cherché un petit peu, puis je ne le trouvais pas. D'ailleurs, à un moment donné, on avait titué 2-3 candidats qui te ressemblaient franchement, en fait, dans physiquement, puis un peu dans leur nervosité Woody Allen-esque. Mais c'est quand...
Sans la pédophilie.
Non, c'est ça. Et c'est quand on a dit, non, c'est pas là qu'il faut aller, que là, ça a été un petit peu plus facile. Mais le casting était compliqué parce que le rôle n'est pas facile à jouer sans tomber dans du caricatural. Et parce que je devais aussi respecter certaines valeurs que j'ai de metteur en scène et qui aussi sont maintenant, je dirais, devenues politiques. C'est-à-dire que tu ne castes pas un Québécois qui n'a aucun rapport avec la communauté arabophone ou le Liban. C'est pas possible. Ça n'arrivera pas. Et donc, la plupart des comédiens sont libanais. Le reste viennent du Maghreb, du Levant ou de l'Égypte. Et donc, ça rajoutait quand même une contrainte supplémentaire. Et après ça, il y a la contrainte de la famille. Ça doit être une famille crédible. Après ça, il y a la contrainte des trois âges. Je devais trouver trois comédiens qui incarnent la même personne. Mais là, l'expérience dicte que tu vas pour les meilleurs comédiens possibles, que tu peux mouler dans un ton qui va se ressembler, mais la ressemblance est extrêmement secondaire.
Ouais.
Et pour les gens qui ont vu la série sur Netflix Queen, The Queen, où on change carrément d'actrice trois fois, mais on comprendra que si l'actrice est bonne, on va oublier l'autre au bout de cinq minutes, puis c'est une convention que le spectateur comprend intuitivement.
Et puis, Alain, en terminant, évidemment, il y a toujours des auteurs qui sont frileux à l'idée d'adapter leur roman, soit perdre certaines libertés créatrices, ou en tout cas, peu importe. À l'inverse, puis peut-être c'est plus présent au théâtre, il y a des artistes qui aiment ça, que voir une autre œuvre émerger d'un matériel source. Je crois que tu as mentionné dans une entrevue que c'est cette avenue-là, mais quelle a été peut-être la plus belle surprise que tu as vue dans le film ou qui s'est dessinée des choix en fait de Philippe par rapport à ton matériel source? Qu'est-ce que tu as le plus aimé d'un nouvel aspect qui a émergé de ton roman?
Je trouve que Philippe, il y a une grande... Il a le sens des responsabilités, hein, c'est pensé depuis la question de l'engagement aussi jusqu'à un certain point, d'être généreux avec le public. Et moi, un de mes travers justement de bidouilleux littéraire et tout ça, c'est d'avoir 8 couches là, tu sais, à mes affaires, puis dire bon, tu sais, ils feront de l'analyse de texte, puis là tu pourras mettre une IA là-dedans, puis elle montrera par stylométrie ce que j'ai essayé de faire, tout ça. T'as pas le choix, tu sais, t'as 24 images par seconde pour produire ton effet. Et puis je trouve qu'il a participé à un travail qui pour moi était très très difficile, mettons, entre mon roman précédent puis mes secrets. D'ouverture, de rencontre, je le dirais comme ça, de démocratisation justement de mon travail, parce qu'il y a une partie de moi qui est dans un surmoi de vouloir montrer que justement je ne suis pas ce kid-là qui n'a pas lu un livre avant l'adolescence ou quoi que ce soit, fait que j'en mets trop. Philippe, c'était toujours less is more à plein d'égards. Donc je trouve que là on est ancré, on est chez ces personnages-là, on est avec eux, on est proche d'eux, et puis je trouve que la matière humaine est encore davantage mise en valeur dans son adaptation.
Alain Farah, Philippe Falardeau, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui et félicitations encore une fois pour ce film.
Merci.
Merci.
Culture, recherche, événement. Le 12.
Ça part ici.
Rebonjour sur les ondes de la CFAQ 88.3. Il est exactement 12h47 et nous allons accueillir notre prochain invité, Louis Blouin de Monastère. Bonjour Louis, comment allez-vous?
Salut, ça va super, vous autres?
Oui, ça va super, merci. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de votre nouvelle EP qui est sortie le 12 septembre, Polaroid.
Exact.
Exact. Alors, comment est née l'idée de ce projet et qu'est-ce qui vous a poussé à associer votre musique à l'image de la photo instantanée?
Ben, en réalité, je trouve que des fois, c'est difficile de mettre en mots des chansons. Puis, lorsqu'on pense vraiment à une image de Polaroid, on sait que c'est jamais parfait. On sait qu'il y a un certain grain sur les photos, une certaine luminosité qu'on recherche. Donc, vraiment un instinct différent un peu sur un Polaroid. Puis on pense qu'on est capable d'aller chercher certains clichés sonores par l'entremise de notre musique. Mm-hmm. Puis c'est pour ça un peu qu'on a décidé d'appeler ça Polaroid. On a décidé de faire 4 clichés sonores. Donc 4 chansons qui parlent un peu de des choses qui sont passées dans ma vie dans les derniers temps. Là.
Parfait. Les chansons de votre EP abordent des thèmes comme le passage du temps et la quête d'authenticité. Comment ces idées sont-elles imposées dans votre écriture et de quelle manière les paroles et la musique se marient pour soutenir ces réflexions?
Écoute, rapidement, la quête du temps, c'est un peu justement certaines chansons. Je peux vous donner par exemple Hong Kong, ouais. Qui est une chanson qui parle de la distance amoureuse entre deux personnes, mais c'est vraiment plus une distance spirituelle. Donc, tu sais, mettons d'un côté... On peut être super près d'une personne, donc de dormir dans le même lit à tous les soirs, mais pourtant d'être très loin dans nos têtes. Ou parfois même, on peut être à l'autre bout du monde, puis on s'ennuie de la personne qu'on aime. Donc, tu sais, la chanson Hong Kong, en réalité, c'est comme un peu une métaphore par rapport à ces thèmes-là. Tu sais, la fin du film aussi, c'est un peu la même chose. Tu sais, la fin du film, c'est le début d'une relation. La fin du film, pour moi, ce qu'on voulait dire par là, c'était qu'à chaque fois que tu débutes une aventure, t'as des dates comme ci, comme ça, puis la fin du film, ben si tu veux pas voir la fin du film se terminer. Donc, c'est un peu comme ça qu'on voyait un peu nos images pour nos chansons.
OK. Ben, le P a été réalisé par ton acolyte Jesse Proto, mais aussi connu sous le pseudonyme de Zagata. Moi, j'avais une question. Ouais. Comment s'est déroulée votre collaboration au fil des enregistrements pour cette EP?
Ah, ça s'est super bien passé. Zagata et moi, Jesse Proto, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, puis on a développé une super de belle synergie en studio. Non seulement qu'on travaille sur le projet avec Monastère, mais on travaille aussi sur ses projets personnels à lui. On travaille aussi avec d'autres artistes pour écrire des paroles et des mélodies. Donc, on est vraiment habitués de travailler ensemble. On a une super de belle synergie en studio. Pour Monastère, il me laisse un peu plus d'espace, étant donné que c'est un projet qui est un peu plus personnel à moi. Pour la création, puis lui est vraiment plus du côté de réalisation, puis il m'aide aussi sur les textes. Donc c'est ça fait 5-6 ans qu'on travaille ensemble, puis on est très très souvent ensemble en studio, puis on a beaucoup beaucoup de plaisir à collaborer ensemble.
OK. Vous avez déjà foulé des scènes importantes comme le Festif, Saint-Roch, XP ou Festive. En quoi l'expérience de ces festivals a-t-elle nourri la conception de nouvelles pièces, que ce soit dans leur structure, leur énergie ou leur potentiel scénique?
J'ai pas compris la fin de ta question, excuse.
Je demandais en quoi la structure de ces festivals ou leurs énergies a fourni la conception de nouvelles pièces telles que votre EP qui vient de sortir.
C'est sûr que lorsqu'on est sur scène, on a un projet qu'on appelle qui est rétro-actuel. C'est qu'on a des paroles qui sont un peu plus rétro, plus actuelles, puis des sons qui sont un peu plus rétro. Mm-hmm. On apporte un algorithme de beaucoup de personnes, donc autant des personnes plus âgées que des personnes plus jeunes. Ça crée vraiment une super de belle ambiance festive. Mm-hmm. Puis tu sais, dans Polaroid, justement, on a des nouvelles chansons qu'on veut développer sur scène qui sont aussi très, très festives. Je pense entre autres à « Good News » ou « La fin du film », qui sont les deux chansons qui n'ont pas été streamées sur les radios comme notre single « You ». Donc, tu sais, je pense qu'avec ces genres de chansons-là, on va apporter une super de belle énergie sur scène. On a très hâte de chanter avec le public québécois.
Oh, OK. Enfin, avec Polaroid qui est maintenant disponible sur toutes les plateformes musicales, quasiment, l'attention se tourne vers la suite. Quelles sont les prochaines étapes pour Monastère, que ce soit en matière de tournée, de nouvelles collaborations ou d'expérimentation musicale? Que souhaitez-vous explorer?
On souhaite vraiment travailler sur un album en 2026. Donc, c'est vraiment là qu'on s'en vient avec Monastère. On a, oh, tu vois, je suis en studio présentement, puis je viens d'accrocher des cymbales, désolé. puis c'est ça, donc on focus vraiment sur un album en 2026. Donc, attendez-vous à quelque chose très prochainement du côté de Monastère. On n'a pas terminé.
Parfait. Ben moi, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Nous
Merci.
Allons écouter votre chanson à la fin du film tout de suite. Avec
Super. Merci.
De rien.
Au revoir.
Au revoir.
Dis-moi qu'est-ce qu'on va faire, ma chère. Jusqu'à la fin du film.
Alors, rebonjour. Après cette courte pause musicale, il est 12h57 sur les ondes de la CEFAC. C'est la fin. Alors, nous tenons à remercier nos invités tels que Alexandre Leclerc qui a fait la rubrique cinéma et aussi Louis Blouin de Monastère qui a été notre dernier invité. Et on se retrouve demain pour nos deux émissions, le 9 et le 12, sur le 88.3, la CEFAC.